Wow, on est nombreux ce matin. On a envie de dire Seigneur, un nouveau bâtiment, mais l'important c'est vraiment ce que voilà, on est ici ensemble et franchement, moi je bénis le Seigneur parce que on peut vivre des moments de qualité et de profondeur ensemble. Et vous avez vu, ça met du temps avant de se construire. Le Seigneur met du temps. Tout ce qu'il fait de bon, ça met du temps. Mais ça se fait lentement, mais sûrement. Je suis vraiment super heureux ce matin de venir vous apporter la parole. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait 6 ans, c'est quand on était encore dans la région parisienne. Et voilà. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 22. Donc la vie chrétienne... pas un long fleuve tranquille. Actes 14, 21, 22. Le lendemain, il partit avec Barnabas, donc Paul, partit avec Barnabas pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait des nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi, car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors tout d'abord, un petit mot de contexte. Luc, l'auteur de ce livre, est un minutieux historien juif, fidèle compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il est l'auteur de son propre évangile, l'évangile de Luc. Le livre des Actes des Apôtres est la suite de son évangile. Par ce second livre, il achève son œuvre littéraire. Élément d'une importance extrême pour notre foi, Luc écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons donc accorder à ce texte une pleine confiance et une pleine attention. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 2 Timothée 3,16. Luc nous raconte donc l'histoire des apôtres après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que l'histoire d'un grand persécuteur de l'Église devenu disciple du Christ. Il s'agit bien sûr de l'apôtre Paul. Je sais bien que tout le monde n'est pas forcément fan de l'apôtre Paul. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit « on a le droit de ne pas être Paul, on a le droit de vouloir aussi être Jésus ». Mais c'est pourtant bien lui que le Seigneur a choisi pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Après plusieurs années de service dans l'église d'Antioche, dans le haut d'Israël, à ne pas confondre avec Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas sont mis à part par le Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Un premier voyage missionnaire en direction de l'Asie mineure, avec comme mission annoncer l'Évangile, faire des disciples, les enseigner et implanter des églises. Ils partent alors d'Antioche, pour leur premier voyage, donc Antioche, qui se trouve là. Ils vont jusqu'à Séleucie, donc au bord de la Méditerranée, anciennement appelée Grande Mer. Ils arrivent sur l'île de Chypre, à Salamine. Ils traversent toute l'île de Chypre. Ils arrivent à Paphos. Hop, ils arrivent à Perge. Ils continuent jusqu'à Antioche de Pisidie, et puis Icône, et puis Lystre. Et c'est là que le contexte rejoint notre texte. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul et Barnabas repassent dans les 3 dernières villes pour fortifier et encourager les nouveaux chrétiens à persévérer dans la foi. Car c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, regardons un petit peu ce qui s'est passé à Antioche de Pisidie, à Iconium et à Lystre. Car si Paul parle des souffrances, c'est que le danger était réel. Le danger venait des hommes et des femmes qui rejetaient l'Évangile pour défendre leur système de croyance. Paul annonçait l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et voici en quoi consistait son message. Acte 17, versets 30 à 31. « Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer ou se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Alors, à Antioche de Pisidie, Paul est invité à s'exprimer dans la synagogue après la lecture de la loi. Avec quelques textes messianiques de l'Ancien Testament, il cherche à convaincre les Juifs que Jésus est le Messie. Beaucoup de Juifs et de prosélytes qui l'écoutent croient et le suivent. Le jour du sabbat suivant, c'est presque toute la ville qui est venue pour l'écouter. Mais que se passe-t-il alors ? Acte 13, 45, en voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Puis au verset 50, « Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur territoire. » La prédication de l'Évangile suscite la jalousie des Juifs. Ils ne veulent pas que les choses changent. Ils sont bien comme ça. Ils se nourrissent de l'admiration, des apparences, de leur amour d'eux-mêmes. Leur vie est si confortable. Il ne faut surtout pas que quelqu'un vienne menacer leur confort et leur sécurité. À cause de leur cœur endurci, de leur incrédulité, ils contrôlent et maîtrisent les âmes fragiles et influençables, les empêchant ainsi d'être sauvés. Mais que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il reprend publiquement les pharisiens, Matthieu 23, 13. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui voudraient le faire. » Et puis à Iconium. À Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs, Actes 14, 1 et 2. Et ils parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Mais les Juifs qui avaient refusé de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Puis ensuite, plus loin, au verset 4, la population de la ville se partagea en deux camps. Les uns prenaient parti pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les non-Juifs et les Juifs, avec leurs chefs, s'apprêtaient à maltraiter les apôtres et à les tuer à coups de pierre. Mais Paul et Barnabas, ayant été informés du plan des Juifs, se réfugièrent à Lystre. Dans cette ville, un homme paralysé des pieds écoute la prédication de Paul. Par la foi dans le nom de Jésus, cet homme trouve la guérison. Mais les Juifs d'Antioche et d'Iconium n'en ont pas fini avec nos deux fidèles témoins du Christ. Ils ont le cœur tellement rempli de haine, de jalousie et de méchanceté qu'ils viennent jusqu'à Lystre. Ils gagnent le cœur de la foule, ils lapident Paul et le laissent pour mort en dehors de la ville. Mais heureusement, les frères en Christ de Paul viennent l'entourer, font monter leurs prières et Paul se relève. Notons d'entrée que je ne suis pas Paul ni Barnabas, que vous n'êtes pas Paul ni Barnabas. Nous ne sommes pas dans le même lieu géographique. Cependant, si nous sommes chrétiens et que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alors cette parole nous concerne pleinement. Nous avons un appel en tant qu'Église, c'est d'annoncer le Christ et d'être ses fidèles témoins. J'espère que nous avons bien calculé le prix à payer au moment où nous avons entendu cet appel du Seigneur. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chers frères et sœurs, je regarde comme un devoir de vous apprendre ou de vous rappeler que c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le mot souffrance en grec, klipsis, rendu selon les différentes traductions par tribulation, affliction, tourment, détresse, persécution ou encore calamité. Autant de mots que nous avons en horreur et que nous préférions ne pas entendre. La véritable vie chrétienne pour un fidèle témoin du Seigneur n'est pas un long fleuve tranquille. Et en même temps, je veux aussi vous rassurer, c'est entièrement normal de vouloir être heureux. On est tous pareils. On n'est pas des fous. On n'est pas des barjots qui cherchent à souffrir absolument. On n'est pas des masochistes, des gens qui aiment avoir mal. Nous sommes des êtres humains, faits à l'image de Dieu. Assoiffés de bonheur, nous avons été créés pour être heureux. Pour être en bonne santé, pour être bien dans notre corps, pour être bien ensemble, en communion les uns avec les autres, pour être en communion avec Dieu et pour l'adorer, pour vivre une vie de joie et de paix. Vous pouvez en être certain, pas parce que moi je le dis, mais parce que la parole de Dieu le dit. Celui qui persévérera jusqu'au bout dans la foi sera un jour bien plus comblé dans ses aspirations qu'il ne peut l'imaginer. Pour ceux qui ont été justifiés par l'œuvre de Christ sur la croix, il y aura la résurrection des justes. Nous aurons un nouveau corps, un corps spirituel. Nous aurons des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Aux amoureux de la nature, vous serez dans l'admiration, l'éblouissement en face des splendeurs du Créateur, du grand artiste. Aux amis des animaux, vous verrez le lion et l'agneau jouer ensemble. Toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24, 35. De toute manière, tôt ou tard, croyant ou incroyant, tout être humain expérimentera la souffrance sous diverses formes. Souffrance psychique ou mentale, souffrance relationnelle ou souffrance physique. Car depuis sa subtile manœuvre dans le jardin d'Éden, l'ennemi de nos âmes, spécialiste dans l'art de se faire passer pour un ange de lumière, met tout en œuvre pour semer la confusion, nous tromper, nous pomper notre énergie dans de faux et vains combats. Son seul but est de nous troubler un maximum, nous rendre confus, nous centrer sur nous-mêmes, sur notre épanouissement personnel. Il déteste les témoins du Christ qui annoncent l'Évangile. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous avons tous besoin d'amour, de sécurité affective. Il peut aussi utiliser ce besoin d'amour, nos émotions, pour nous faire tomber dans ses filets. Un seul amour est le bon, on l'a vu ce matin. C'est l'amour de celui qui nous a tant aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous, son trésor le plus précieux. L'une des trois personnes de la Trinité, jouissant d'une communion parfaite depuis toute éternité. Son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le trésor des cieux. Jean 3, 16, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition éternelle et qu'ils aient la vie éternelle. » Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Tout être humain connaîtra la souffrance, mais le bienheureux sujet que je veux traiter ici, ce sont les souffrances pour Jésus-Christ. Oui, bienheureux, c'est bien ce que Jésus dit. Ici, dans Matthieu 5, 11-12, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous, de la même manière. » Alors, puisque nous souffrirons tous, de toute façon, choisissons de souffrir pour le royaume et pour la justice de Jésus-Christ. Faisons bien attention à ne pas être entraînés dans les ruses subtiles de notre ennemi. Il va jusqu'à détourner le véritable sens des Écritures et nous donner ainsi des autres évangiles, des faux évangiles, qui nous promettent le bonheur ici-bas, prospérité financière, la guérison toujours et de toute manière, comme si Dieu nous devait quoi que ce soit, comme si nous pouvions lui imposer notre volonté. On ne manipule pas Dieu. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Bien sûr que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu est un Père parfait, qui sait parfaitement ce qui est bon pour chacun de ses enfants, et il est entièrement digne de confiance. Sachons ceci. À partir du moment où nous avons plié les genoux devant la croix, d'ennemis que nous étions, à partir de ce moment béni où il nous a accordé son pardon, il nous a adoptés comme son enfant bien-aimé. il a fait de nous des co-héritiers de Christ. Nous méritions l'enfer, nous étions condamnés, il ne nous devait rien du tout. Mais à cause de sa grande bonté, il a envoyé son Fils qui a pris notre place, qui a subi notre juste châtiment. Lui, il n'avait rien fait. Dieu l'a fait pour nous parce qu'il est riche en bonté. C'est une faveur imméritée. C'est ce qu'on appelle la grâce. Nous ne le voyons pas encore, mais il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dans notre union avec le Christ, ce qui est à lui est à nous. Mais pour l'instant, c'est la mise à l'épreuve de notre foi. La formation de disciples n'est pas facile. Quand l'épreuve fond sur nous, ne soyons pas étonnés. Notre Père ne nous a pas abandonnés. Il n'est pas un homme qui abandonne. Il est Dieu, il est fidèle. Quand nous sommes dans l'épreuve, c'est son amour qui veut nous faire grandir, nous faire comprendre des choses cachées, nous faire avancer dans la connaissance de son Fils. Trois passages, Jean 15, 2. Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Hébreux 12, versets 5 à 11. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas ? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. Et puis Deutéronome 8, 2, 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Et puis pour aller tranquillement vers la fin de ce message, quelques encouragements pour la suite du chemin. La récompense à venir. Si tu as pris position pour Jésus-Christ, tu connaîtras des souffrances. Quel encouragement, vous allez me dire. 2 Timothée 3, 12 et 13. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et se trompant eux-mêmes. Suivre Jésus, c'est une décision qui peut être très difficile. Nous avons tous peur de souffrir, et moi le premier. Mais le prix en vaut la chandelle, la vie éternelle. Suivons l'exemple de Moïse, qui, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Hébreux 11, versets 24 à 26. Et puis, ne cherchons pas la souffrance. Ne cherchez pas la souffrance comme certains moines qui se flagellent ou qui montent les escaliers des cathédrales jusqu'à ce que leurs genoux soient en sang. Ils cherchent à expier leurs fautes alors que le Seigneur a déjà tout accompli. Chercher son salut dans les œuvres, c'est se remettre sous la malédiction de la loi. Après notre conversion, nous sommes rentrés dans un nouveau cadre, une relation père-fils, père-fille. C'est notre Père qui permet les épreuves, qui nous corrige pour nous faire participer à sa sainteté. Et ces épreuves sont parfaitement millimétrées en vue des leçons qu'il veut nous apprendre. Et puis, encourageons nos frères et nos sœurs. Soyons des chrétiens qui encouragent nos frères et sœurs à persévérer dans la foi, à continuer à courir la course jusqu'au bout. Trop souvent, au lieu de ça, nous jugeons et critiquons nos frères et sœurs dans le secret de nos cœurs. Nous nous comparons et nous sommes jaloux de ce que nous n'avons pas, n'ayant pas encore découvert les précieux dons que Dieu nous a donnés. Chacun a des dons, et c'est notre responsabilité de les aiguiser, de nous entraîner, de nous former. Et nous avons besoin de l'aide, du soutien et des enseignements de nos frères et sœurs. Je relis Actes 14-20. Après avoir été lapidé, gisant sur le sol, roué de coups, les disciples se rassemblèrent autour de Paul. Il se releva et rentra dans la ville. Et puis, toi, suis-moi. Nous avons besoin des frères et des sœurs pour avancer. Et ne sous-estimons pas la dimension collective. Mais ta marche avec le Seigneur est personnelle. Ta relation avec le Seigneur est personnelle. Comme le chante le groupe Denisa dans leur chanson pour les enfants, « Toi, c'est toi, moi, c'est moi, on n'est pas les mêmes, importants et chacun différent. » Lorsque Jésus est ressuscité, il donne rendez-vous à ses apôtres au bord du lac de Galilée. Tout le monde est là. Ils sont sur leur bateau, Jésus est sur le bord du lac de Galilée, puis ils le reconnaissent, ils vont près de lui. Jésus a préparé des poissons à manger, ils le rejoignent. Et là, ils sont ensemble autour du feu, ils mangent. Et puis, réaction de Pierre, Jean 21-21, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, en parlant de Jean. Il marchait derrière eux. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Que t'importe ? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Et puis la souffrance est un aspect de la vie chrétienne. Elle n'est pas une fin en soi. Elle est un aspect de la vie chrétienne. La vie n'est pas que souffrance. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il y a évidemment plein d'autres aspects à découvrir et beaucoup de joie à vivre. Puis je terminerai par la plus délicieuse vérité que nous puissions entendre ici-bas. Christ habite en nous. Lorsque vous souffrirez, j'ai presque voulu écrire « si vous devez souffrir ». Mais non, j'ai écrit « lorsque vous souffrirez ». Parce que si vous n'avez pas part aux souffrances, vous êtes des enfants illégitimes, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Lorsque vous souffrirez pour le nom de Jésus-Christ, rappelez-vous ceci, Jésus est avec vous. En vous, à votre conversion, vous avez reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ habite en vous. Votre corps est un temple, la maison de Jésus-Christ. Nous avons parfois l'impression que Jésus n'est pas là parce que nous ne ressentons pas sa présence. Mais la vérité, c'est qu'il est toujours là. Toujours, toujours, de manière continue, même quand nous ne le ressentons pas. Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Puis Colossiens 1, 27, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » En vous donnant ce message, je ne cherche pas à être alarmiste ou à vous assommer avec des versets, mais plutôt à nous réveiller dans un monde qui nous endort pour que nous grandissions ensemble en lucidité et en maturité. Non, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus vit en nous. Par lui et en lui, avec sa force et sa grâce, nous arriverons au bout de la course. Alors prions. Merci Seigneur pour ta présence ce matin, merci pour ces moments. Merci parce que la plupart du temps, on est tous isolés chez nous, de notre côté. Et puis là, le dimanche, Seigneur, tu rassembles tous tes enfants dans un lieu, dans ton église. Seigneur, une église, ce n'est pas une institution humaine, c'est toi qui es là, c'est toi qui es la tête de ce corps, Seigneur. Et Seigneur, on est là pour être ensemble et pour être encouragés, Seigneur, par ta parole. Alors Seigneur, la souffrance, voilà, on en a tous peur, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui nous enchante, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, la grâce de l'accepter petit à petit avec, Seigneur, avec l'aide de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions avancer jusqu'au bout, Seigneur. Et puis Seigneur, aide-nous à transformer notre regard aussi sur cette souffrance qui nous fait si peur, pour que nous puissions comprendre qu'elle est utile, qu'elle nous aide, Seigneur, à mieux te connaître, à mieux comprendre les choses qui te concernent, Seigneur, pour qu'un jour, Seigneur, nous puissions être aussi aptes, Seigneur, de plus en plus, si ce n'est pas déjà le cas, à encourager nos frères et sœurs pour aller jusqu'au bout, Seigneur, de la course. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, Seigneur, nous serons avec toi. Merci parce que tu es aussi comme ce Père, le Père dans l'histoire du Fils perdu, qui attend. Un jour, Seigneur, nous pourrons, Seigneur, courir dans tes bras. Et tu nous consoleras, tu essuieras toute larme de nos yeux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit que tu as mis en nous, Seigneur. Merci. Amen.